Moi, j'ai horreur des casse-têtes chinois et des rébus en tout genre. Le cube de Rubik's et toutes ces boîtes qui contiennent des centaines ou même plus d'un millier de tout petits cartons qu'il faut assembler en un puzzle géant, ça me sort par les yeux. Par contre, je me passionne à rechercher et à trouver, si possible, le sens d'un passage biblique difficile. En hébreu, la première phrase du verset 15 du second chapitre de la prophétie de Malachie n'a guère de sens. Mais comme c'est la parole de Dieu, il faut la travailler avec respect. Littéralement, nous avons. N'a-t-il pas fait un et le reste d'esprit en lui? Si le mot un représente l'union d'un homme et d'une femme, si le pronom il désigne Dieu, si au lieu de esprit, on traduit souffle de vie, et tout ça est possible, alors on arrive à la phrase. L'Éternel n'a-t-il pas fait un seul être, le reste possédant souffle de vie? Ça ne va toujours pas à cause du mot reste. Mais si on change légèrement le pointage des voyelles, on obtient le mot chair, et la phrase devient l'Éternel n'a-t-il pas fait un seul être, chair possédant souffle de vie? Maintenant ça va. Cette interprétation est souvent adoptée parce qu'elle est conforme au contexte dans lequel Malachie adresse de sévères remontrances aux hommes israélites qui ont répudié leur épouse juive légitime pour prendre à sa place une belle femme plantureuse païenne. Il les accuse de trahison, d'avoir rompu leur engagement, violé l'alliance maritale qu'ils avaient conclue avec leur premier amour. Il y aurait donc, dans les paroles de Malachie, une allusion à l'institution du mariage qu'on trouve dans le livre de la Genèse, où il est dit que l'homme s'attachera à sa femme, et les deux ne feront plus qu'un. Oui, mais cette interprétation a quand même deux gros problèmes. Le premier est qu'il faut transformer le mot « reste » en « chair ». C'est possible, mais c'est un peu forcé. Le second problème est que la phrase « chair » possédant « souffle de vie » qui fait allusion à la création de l'homme. En effet, dans le livre de la Genèse, il est écrit « L'Éternel Dieu façonna l'homme avec de la poussière du sol. Il lui insuffla dans les narines le souffle de vie et l'homme devint un être vivant. » Et dans le contexte des hommes israélites qui répudient leur femme pour en prendre une autre. On se demande que vient faire ici une référence à la création de l'homme. Il faut donc trouver une autre interprétation. Reprenons cette phrase mystérieuse. N'a-t-il pas fait un et le reste d'esprit en lui? Si un désigne chaque homme israélite coupable, si le mot pour esprit est traduit par bon sens ou bonne conscience, ce qui est une traduction tout à fait possible, on obtient un homme en qui subsiste ne serait-ce qu'un reste de bonne conscience, fera-t-il cela? En bon français, ça donne « aucun homme ayant le moindre bon sens n'agirait comme vous le faites ». C'est-à-dire qu'il ne divorcerait pas la femme de sa jeunesse pour en épouser une autre qui de surcroît est une païenne idolâtre. Ouf, c'est pas simple. Je continue avec la phrase suivante du verset 15. Et que cherche cet homme? Une postérité qui lui viendrait de Dieu? Cette question de rhétorique demande un non, franc et massif. En d'autres mots, absolument pas. Les Israélites qui répudient leur épouse légitime pour s'embringuer avec une païenne idolâtre, ne souhaite pas faire des enfants, en veux-tu, en voilà. Ce n'est sans doute pas une postérité qu'il recherche, mais seulement avoir du bon temps avec une jeune fille. Bien des commentateurs pensent que cette phrase fait référence au patriarche Abraham, et la traduisent de la manière suivante. Alors, qu'a fait cet homme-là, Abraham, dont nous avons l'exemple? Eh bien, il cherchait une descendance qui lui vienne de Dieu. Malachie répondrait alors à une objection de la part des hommes israélites qui essayent de justifier leur conduite en disant qu'après tout, ils ne font que suivre l'exemple d'Abraham avec Agar. On lit en effet dans le livre de la Genèse que Sarah, étant stérile, elle dit à son mari de coucher avec sa servante Agar, et l'enfant qui naîtra de cette union sera le sien. Comme à cette époque, il n'y a pas d'insémination artificielle. On fait tout au naturel et les servantes servent accessoirement de concubines ou de ventre-porteurs. Il faut dire aussi que le but de Sarah est alors d'aider l'Éternel à tenir la promesse d'une postérité qu'il a faite au couple patriarcal. Abraham, étant d'un tempérament plutôt laissé faire, il suit les conseils de Sarah et aussitôt fait. Il s'empresse de mettre Agar enceinte. Mais ensuite, les relations entre les deux femmes se détériorent à la vitesse grand V. Alors, toujours à la demande de Sarah, mais à contre-cœur, Abraham chasse Agar en même temps que son fils Ismaël. Selon bien des commentateurs, les Israélites citent l'exemple d'Abraham pour justifier leur conduite impie. Le prophète répond alors qu'Abraham a renvoyé Agar pour préserver la postérité que l'Éternel lui avait promise et donnée en Isaac. Ça, c'est vrai. Et une compréhension du passage qui fait intervenir Abraham est séduisante. Cependant, elle pose trop de difficultés, ce qui fait qu'il est très peu probable que dans les reproches qu'ils adressent aux hommes israélites, Malachi ait l'ancêtre Abraham à l'esprit. En effet, il n'est guère convenable, pour plusieurs raisons, que les Israélites puissent justifier leur action en s'abritant derrière Abraham, qui a pris Agar pour ventre-porteur, afin d'avoir une postérité de Dieu. Premièrement, le patriarche n'a pas renvoyé sa femme légitime, mais une servante, tandis que les hommes israélites font quasiment le contraire. Et puis, ce n'est pas pour obtenir une postérité qu'ils prennent une païenne, mais pour satisfaire leur convoitise charnelle. Deuxièmement, s'il est vrai qu'après la mort de Sarah, Abraham a épousé Keturah, de qui il a plusieurs fils, aucun d'entre eux ne fait partie de la postérité promise par Dieu. D'ailleurs, de son vivant, le patriarche prend grand soin de faire en sorte que Isaac, l'enfant de la promesse, soit tenu à l'écart de tous ses demi-frères. Tout ça pour montrer que dans le verset difficile qui nous occupe, Malachi ne parle pas du tout d'Abraham. Dans l'ancienne version grecque, qui est très utilisée au 1er siècle, ce verset est traduit ainsi. Vous dites, que chercherait Dieu d'autre qu'une postérité? En d'autres mots, la justification des hommes israélites serait que l'Éternel veut une augmentation de la population de son peuple, quelle que soit la manière utilisée. En d'autres mots, la fin justifie les moyens. Mais cette interprétation est non seulement très éloignée du texte sacré hébreu traditionnel, mais elle communique une vision de Dieu tout à fait erronée. Pour conclure, il apparaît que la traduction que j'ai proposée est probablement la bonne. Je la rappelle. Et que cherche cet homme, parlant des hommes israélites coupables? Une postérité qui lui vienne de Dieu? Une question qui demande un non franc et massif. Je continue le texte avec la fin du verset 15 qui se rattache au suivant. Restez donc dans votre bon sens, et ne trahissez pas la femme de votre jeunesse, car je déteste la répudiation, déclare l'Éternel, le Dieu d'Israël, et celui qui agit ainsi couvre de violence son vêtement, déclare l'Éternel des armées. Prenez donc garde à vous-même, et n'agissez pas en traître. L'exhortation de Malachi aux hommes est donc la suivante. Gardez votre bonne conscience et ne vous conduisez pas comme des traîtres envers votre femme. Dans l'Israël ancien, quand un Israélite se marie, il étend son manteau sur son épouse. Par cet acte symbolique, il lui promet tendresse et protection. Cette coutume apparaît bien dans les passages tirés de Ruth et du prophète Ézéchiel, passages que j'ai déjà cités Mais je les rappelle. Par une belle nuit étoilée, Boaz dort du sommeil du juste dans l'air de battage. Tout à coup, il s'éveille et découvre une femme endormie à ses pieds. C'est Ruth, la Moabite, qui lui dit alors « Étends sur ta servante le pan de ton manteau, car tu as droit de rachat. » Dans le livre d'Ézéchiel, l'Éternel compare sa relation à Israël à un mariage et dit « Quand j'ai repassé près de toi et que je t'ai revu, je me suis aperçu que tu avais atteint l'âge de l'amour. Alors, j'ai étendu sur toi le pan de mon manteau et j'ai couvert ta nudité. Je t'ai prêté serment pour conclure une alliance avec toi. Le Seigneur l'Éternel le déclare. C'est ainsi que tu es devenue mienne. » Fort de cet arrière-plan culturel, on comprend mieux ce que signifient les paroles de l'Éternel quand il dit que celui qui répudie son épouse légitime, sans raison, juste pour marier une plus jeune, commet un acte de violence à l'égard de sa femme. Il couvre de violence son vêtement, car c'est comme si le manteau qu'il a étendu sur son épouse le jour des noces est maintenant taché de sang. Dieu exprime ici, avec la plus grande sévérité, combien il a en horreur la conduite coupable des hommes israélites, parce qu'ils se montrent cruels à l'égard de leurs épouses légitimes. Et, par cet acte, ils rompent l'alliance que, par serment, ils ont juré de respecter. Dieu est tellement furieux qu'il martèle sa désapprobation en tapant le poing sur la table, pour ainsi dire, en déclarant deux fois que c'est lui qui parle, lui, l'Éternel, le Dieu d'Israël, l'Éternel des armées. D'une manière générale, Dieu désapprouve le divorce. Mais ici, c'est pire. Premièrement, parce qu'il s'agit d'une répudiation qui n'a d'autre mobile que la convoitise charnelle et qui, bien sûr, fait violence aux droits de l'épouse lésée. Et deuxièmement, la nouvelle femme est une païenne vouée aux idoles, ce qui est une grosse entorse à la loi de Moïse. Dans le monde antique, quand une femme est rejetée, elle se trouve dans la situation que les Allemands appellent « Torchschluss Spanik », un avenir bouché fait de honte, détresse et de misère. En Israël, et comme je l'ai déjà dit, ces répudiations avaient des répercussions religieuses catastrophiques sur le peuple élu. Ce qu'on découvre dans le livre de Néhémie, après avoir reconstruit les murailles de Jérusalem, ce brave gouverneur doit retourner en Perse pour rendre des comptes à son maître, le roi Artaxerxès. Puis après un certain temps, de plusieurs années, semble-t-il, il peut retourner à Jérusalem. Mais dès son arrivée, il se prend une grosse douche froide, très froide. En effet, pendant son absence, le grand prêtre Eliashib, qui auparavant était fidèle à l'Éternel, le voilà qui est maintenant parent avec des ennemis du peuple de Dieu. Et Yehoiada, le petit-fils du grand prêtre, est le gendre de Sambala, le Horonite. Et pour faire bon poids, bonne mesure, Eliashib est également devenu parent de Tobia, ammonite de son état et donc persona non grata en Israël. Or, Eliashib, le grand prêtre, n'a rien trouvé de mieux que de loger Tobiaïa, l'émonite, dans l'une des salles qui sert d'entrepôt au temple de l'Éternel. Rien que ça. Ni une ni deux. Néhémie fait le ménage, comme Jésus avec les marchands du temple. Il prend Tobiaïa, l'ammonite, et tout ce qui lui appartient, et vire le tout. Ensuite, il fait purifier rituellement son ancien logement, parce que ce Tobiaïa est atteint de la gale spirituelle en quelque sorte. On peut se demander si Néhémie ne regrette pas alors les jours paisibles qu'il passait en Perse, parce que quand il est arrivé à Jérusalem, c'est la zizanie complète. Néhémie fait également rétablir l'observance du sabbat que les Juifs ignorent totalement, parce que le commerce marche fort 7 jours sur 7, au point où les habitants de Tyr, une ville phénicienne, se sont même installés dans Jérusalem, où, on n'a pas douté, ils ont ouvert une boutique avec pignon sur rue. Tout cela étant dit, la cerise sur le gâteau revient quand même à ces mariages si fortement condamnés par Malachie. Néhémie écrit, à cette même époque, je vis des Juifs qui avaient pris des femmes asdodiennes, ammonites, moabites. La moitié de leurs fils parlaient asdodien et ne savaient pas parler le juif. Ils ne connaissaient que la langue de tel ou tel peuple. Je leur fis des réprimandes et je les maudis. J'en frappai quelques-uns. Je leur arrachai les cheveux et je les fis jurer au nom de Dieu en disant, vous ne donnerez pas vos filles à leurs fils et vous ne prendrez pas leurs filles ni pour vos fils ni pour vous. D'après ce qu'écrit Néhémie, ses enfants ne parlent pas l'hébreu, ce qui veut dire qu'ils ont été élevés par leur mère selon sa culture, ses coutumes et sa religion, qui est polythéiste. De toute évidence, le peuple de Dieu se corrompt à vive allure, et sans l'intervention énergique de Néhémie, il aurait fini par disparaître, noyé dans la masse des autres peuples. C'est exactement ce que Satan voulait accomplir, car il ne faut pas se leurrer. C'est bien lui qui tire les ficelles, qui a joué sur la convoitise des hommes israélites et attisé leur concupiscence. Au grand mot, les grands remèdes. Néhémie n'y va pas de main morte, car il ordonne à ceux qui veulent continuer à faire partie du peuple élu de renvoyer leur seconde épouse avec leurs enfants. À n'en pas douter, ça a dû être une séparation dure et un déchirement avec beaucoup de souffrance. Mais cette seconde répudiation est la volonté de Dieu. Cet incident m'amène à dire et à rappeler que le divorce n'est pas totalement interdit par les Écritures et qu'il y a des circonstances où c'est la moins mauvaise des solutions. Cependant, depuis la création de l'homme, la situation idéale est voulue par Dieu et qu'il trouve une compagne et reste avec elle pour la vie. D'ailleurs, après avoir créé Adam, de la poussière de la terre, dans le livre de la Genèse, on lit que « L'Éternel Dieu, qui avait façonné du sol tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, les fit venir vers l'homme pour voir comment il les nommerait, afin que tout être vivant porte le nom que l'homme lui donnerait. L'homme donna donc un nom à tous les animaux domestiques, à tous les oiseaux du ciel et aux animaux sauvages. Mais il ne trouva pas d'aide qui soit son vis-à-vis. L'Éternel avait créé tous les animaux, mâles et femelles, mais l'homme n'avait pas de compagne. Après avoir passé en revue tous les animaux, Adam se rend compte qu'il est seul. Bien qu'il soit au paradis terrestre, où rien ne manque, et tout est parfait, il a besoin de compagnie, quelqu'un comme lui, avec qui il puisse partager sa vie. Une fois que Adam prend conscience de sa solitude, le texte dit « L'Éternel Dieu plongea l'homme dans un profond sommeil. Pendant que celui-ci dormait, il prit une de ses côtes et referma la chair à la place. » On peut se demander pourquoi Dieu n'a pas façonné Ève à partir de la poussière de la terre comme pour Adam. C'est sans doute pour bien imprimer dans l'esprit d'Adam que la femme fait partie de l'homme et qu'ensemble, ils forment un tout. Le texte dit « Puis l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena à l'homme. Alors l'homme s'écria, « Voici, bien cette fois celle qui est haut de mes os et chair de ma chair. Elle sera appelée femme, car elle a été prise de l'homme. » Adam reconnaît en Ève sa moitié, celle qui lui manquait. Cette complémentarité est bien rendue en hébreu où le mot pour femme et le mot pour « homme » augmenté par la terminaison du féminin qui est un long « a ».« Ish »,« homme » devient « isha », »,« femme ». Les prédicateurs font quelquefois remarquer que Dieu a tiré la femme de la côte de l'homme, mais pas de sa tête pour qu'elle ne domine ni de son pied pour qu'elle ne soit son esclave. Elle est issue de son côté pour être son égale et sa compagne. Et elle est proche de son cœur pour qu'il l'aime. Le texte de la Genèse dit « Un homme se séparera de son père et de sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux ne feront plus qu'un. » Dans l'arithmétique céleste, 1 plus 1 égale 1. Les familles originelles des deux membres du couple ne sont pas invitées dans cette nouvelle union. Pour que le nouveau couple réussisse, il faut qu'ils se séparent physiquement, mais surtout émotionnellement de leurs parents respectifs. Les cas sont nombreux. Une jeune femme mariée forme un couple non pas avec son mari, mais avec sa mère. Une dysfonction notoire qui ne manque pas d'engendrer de gros problèmes dans toutes les directions. L'institution du mariage n'est pas une idée de l'homme, mais de l'Éternel. C'est lui qui a conçu cette union d'un homme et d'une femme pour leur bonheur réciproque. Malheureusement, le péché est entré dans le monde et y a taché, infecté tous les domaines de la vie humaine, y compris, bien sûr, les relations mari-épouse dans le mariage. Lorsque Moïse donne la loi aux Hébreux, l'une de ses ordonnances mentionne le divorce, mais ne l'institue pas. Moïse ne fait que reconnaître la réalité du divorce afin de rendre cette séparation conjugale définitive une fois que la femme est remariée. Dans le livre du Deutéronome, on lit « Supposons qu'un homme ait épousé une femme et que, plus tard, il rédige une lettre de divorce. Après être parti de chez lui, cette femme se remarie avec un autre homme. Supposons que ce second mari cesse aussi de l'aimer, qu'il rédige à son tour une lettre de divorce, ou supposons qu'il meure. Dans ce cas, le premier mari qui l'a renvoyée n'aura pas le droit de la reprendre pour femme. » Au fil des siècles, cette ordonnance de Moïse a fait couler beaucoup d'encre parce que aucun motif n'est donné pour la raison du divorce et les termes hébreux sont très vagues. Heureusement, le Nouveau Testament est bien plus précis.